Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, je retrouve Anna Besson et cette fois-ci, je suis en direct au même endroit que Armand Gall, notre technicien. Bonjour Armand.
Bonjour Mathilde.
Et nous avons Anna qui est chez elle à Bootersheim. Je suis sûre que je le dis encore mal. Bonjour Anna.
Bonjour Mathilde.
Nous allons commencer par un morceau que vous avez choisi et vous nous le présenterez après. Of Polska, présenté par Anna Besson aujourd'hui sur Radio Présence dans Musique traditionnelle. Anna, donc, vous nous avez choisi ce morceau. Je vous laisse nous dire pourquoi. Moi j'ai adoré, Armand aussi. Je parle en, en son honneur.
Alors, la raison, c'est simplement pour la bonne humeur qu'il véhicule. J'ai découvert ce morceau il y a quelques années en écoutant beaucoup de musique scandinave. Et donc, Gjermund Larsen est un violoniste norvégien que je suis beaucoup, que je trouve extrêmement fort. Et donc, dans ce morceau, il collabore avec le groupe Nordic, également un autre groupe scandinave qui fait appel à des musiciens et suédois et norvégiens pour jouer cette kind of polska, puisqu'il s'agit d'une polska, mais un peu déstructurée. Et ça me met en joie, tout simplement.
Alors, ça, c'est le groupe Nordic qui joue ce morceau ?
C'est Gjermund Larsen qui a composé le morceau, et pour celui-ci, il a collaboré avec le groupe Nordic.
Ah, d'accord, je comprends pourquoi j'aime beaucoup. Alors moi, je pensais que les polska, de toute façon, c'était très déstructuré, mais ça, je laisserai notre amie Aurélie Gier en parler de façon plus précise. Elle l'a déjà fait hors micro de Radio Présence. Donc, la dernière fois, Anna, nous étions restés sur votre parcours baroque, traditionnel, classique, et nous avions parlé des tempéraments, des tonalités. J'aurais voulu reprendre directement, là, tout de suite, le discours là-dessus.
Oui, alors, on avait parlé très brièvement des tempéraments, tonalités, donc ils sont liés, hein, jusqu'au milieu du 19e siècle, on va dire, où le tempérament s'égalisent de plus en plus et donc on a moins besoin de parler de tempérament. Mais alors je rappelle juste qu'on parlait aussi de différences de tonalité et des effets qu'elles avaient, qu'elles produisaient sur le corps et sur l'esprit des hommes, puisque le tempérament est donc un compromis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un demi-ton exact entre chaque note, donc on va faire des compromis, on va dire que cette quinte sera plus petite, que cette octave sera de toute façon juste, parce qu'une octave pas juste, elle fait mal aux oreilles.
Oui.
C'est un compromis entre les tierces et les quintes, pour être OK. Et donc ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, selon le compromis dont on va décider, certaines tonalités vont très très bien sonner, et d'autres vont être mises à l'écart. C'est-à-dire qu'elles vont paraître plus dures à l'oreille. Et de ça, va en ressortir des effets vraiment assez spectaculaires quand on écoute telle ou telle tonalité correspondant au tempérament choisi. Alors, on a retrouvé, par exemple, dans des volumes du XVIe siècle, à la Renaissance, on a Hermann Finck, dans sa Musica Pratica, lui était organiste, il était théoricien de la musique, également Giuseppe Zarlino, dans Institutioni Armonici. Donc là, on est vraiment mêmes années, hein, 1556-1558. Et donc, il nous parle des modes, par exemple. Alors, par exemple, on a vraiment des idées comme le mode dorien à la mélodie la plus légère qui réveille les endormis, réjouit les mélancoliques. Ça, c'est Finck. Et pour ce même mode, Zarlino nous dit, un peu triste, on peut l'employer pour des paroles pleines de gravité, élevées ou sentencieuses. Alors, pour chaque mode, on va avoir des descriptions de la sorte. Le mode hypodorien fait verser des larmes. Selon Finck, Zarlino nous dit larmoyant, désespéré, donc ils sont à peu près d'accord là-dessus. On a aussi le mode, si je continue, on a le mode phrygien, donc selon Finck, attribué à Mars, il entraîne colère et bile. La bile est très présente aussi depuis le Moyen-Âge, puisque c'est elle qui décide les fluides du corps. Tandis que Zarlino dit qu'il incite à la plainte, il est apte aux paroles pleines de larmes et de lamentations. On a le mode hypophrygien, il représente le parasite qui flatte les manières de son maître, donc ça va vraiment chercher loin. Zarlino nous dit qu'il est apte aux matières amoureuses, lamentations suppliantes, cajolerie, flatterie, tromperie. On a le mode lydien, de nature jupitérienne, qui est un mode tout à fait sanguin, nous dit Finck, et tandis que Zarlino dit que c'est le soulagement des soucis qui apporte la joie. On a le mode hypolydien, qui n'est pas rare dans les prières, selon Finck. Certains l'attribuent à Vénus, sous prétexte qu'il préfère l'humanité. Zarlino nous dit dévot larmoyant, convient aux matières qui contiennent de la commisération. Ensuite, on a le mixolydien, proche de Saturne. Ce mode se montre avec une voix de stentor, à grands cris, de sorte qu'il terrorise tout le monde. Il faut quand même imaginer que certains modes étaient vraiment choisis en fonction de l'affect en fait, qui produisait chez les gens. Hein.
Oui.
Donc, si jamais on compose en do, en sol, ou dans le mode de la, dans le mode de ré, on savait exactement pourquoi on composait. Ce qui est quand même la grande différence, je trouve, avec aujourd'hui, où avec le tempérament égal, où chaque demi-ton, donc je rappelle, a la même distance entre chaque, ce qui rend quelque chose de très homogène pour toutes les tonalités, on va beaucoup, du coup, on n'a plus besoin de composer en choisissant une tonalité particulière. Disons qu'elles vont toutes sonner de la même façon.
Oui, alors...
Alors qu'à l'époque, c'était très important, elles sonnaient absolument pas pareilles.
Oui, parce que j'entends là toutes vos descriptions, en fait... Quand même, on a du mal à se représenter ces modes aujourd'hui, puisqu'on ne les entend plus, et puis peut-être qu'on n'arriverait pas à les apprécier. Mais par exemple, on est parti d'un morceau au début de l'émission, et vous nous avez dit, j'ai choisi ce morceau parce qu'il est joyeux, et qu'il me met en joie, et qu'il me donne de l'énergie. Donc on a gardé, enfin on a toujours ce lien entre l'émotion et la musique. Mais du coup, on les exprime de façon complètement différente, c'est ce que vous dites, en fait.
Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est un peu la magie de l'art. En général, ça peut être un film, ça peut être un tableau, ça peut être de la musique. On est touché ou on ne l'est pas, d'ailleurs. Puis on est touché d'une façon particulière ou pas. On peut être choqué par de l'art, on peut être transi, on peut être amoureux. C'est quand même la force, c'est sublime. De pouvoir ressentir ces choses-là en écoutant, en se laissant porter par un morceau, par une chanson, par quoi que ce soit. C'est juste que dans la manière de composer, on va dire, c'était vraiment pris en compte. La tonalité ou le mode était pris en compte. Donc là, je viens de citer des sources Renaissance, mais on a la même chose au XVIIIe siècle. Et pour le coup, là, on parle plus de mode, mais de tonalité. Donc par exemple, pour Do majeur, Charpentier, qui est un compositeur français, né en 1636, hein, il meurt tout début XVIIIe siècle, qui nous dit dans ses règles de composition que Do majeur est gai et guerrier, Do mineur obscur et triste, Ré majeur joyeux, Ré mineur grave et dévot, Mi bémol majeur cruel et dur. En général, quand on est en tonalité avec pas mal de bémol ou de dièse, ça va effectivement rendre le tout un petit peu plus dur, un petit peu plus difficile à l'écoute. On a la même chose en Allemagne. Tout ça, c'est lié aussi à la rhétorique. Hein. On parle du discours, le discours musical. On est là pour convaincre les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important en musique tout au long du 18e et même avant. On est là pour convaincre. C'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser les formes rhétoriques. On va savoir que si on utilise cet intervalle, il va exprimer un saut douloureux, par exemple. Et donc, on sait que si on compose là-dessus, on va utiliser beaucoup de sixte mineure. Donc, ça, c'est très important. Les compositeurs ne faisaient pas qu'apprendre la musique, mais ils avaient aussi des cours de rhétorique.
Donc, en fait, ils faisaient de l'argumentation, là. C'est plus que de l'art. C'est vraiment... c'est presque de la propagande, en fait.
Disons que c'est juste qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui ce système-là. Après, je pense c'était quelque chose qui était... C'était leur cours, hein, donc ils l'apprenaient à l'école. Mais encore une fois, nous, pareil, on a appris à lire, on a appris à écrire. Quand on apprend à lire, à écrire, une fois qu'on l'a engrangé, quelque part qu'on l'a compris, on n'y pense plus. C'est la même chose en composition. Hein. Peut-être qu'au départ, s'ils se disent, voilà, j'ai envie de composer une œuvre, par exemple, sacrée, Do mineur était, par exemple, il y a trois bémols à la clé, donc on va considérer que ça correspond à la Trinité. Donc ça peut être une très bonne tonalité, par exemple, pour écrire une œuvre religieuse, sachant que dans les œuvres religieuses, il y a énormément de tonalités. Mais c'est très intéressant, une fois en fait, de savoir ça, de savoir que les traités d'époque parlent de ces tonalités avec vraiment en plus des termes très précis. Matheson, un autre compositeur allemand, par exemple, va nous dire sur Do mineur, là où Charpentier trouve que c'est obscur et triste, lui va dire surtout agréable, charmant, mais aussi triste et désolé. Donc en fait, c'est un peu comme l'horoscope aujourd'hui, je crois qu'on y trouvait un petit peu de tout. Selon comment on se sentait. Mais c'est vraiment...
C'est très intéressant, oui, comme l'horoscope. C'était les dièses ou les bémols à la clé.
Mais il y a des choses vraiment, vraiment très rigolotes. Ré mineur, par exemple, pour le poète Schubart, un peu plus loin encore dans le 18e, caractère de femme sombre, couvant le spleen et des idées noires.
Ouh.
C'est quand même incroyable.
Oui, ça, en effet. C'est hyper, hyper théorisé tout ça. Hein. C'est pas juste j'ai ma plume, je regarde en l'air, un papillon qui passe et j'écris.
C'est les deux. Hein. C'est les deux. On peut pas juste faire en fonction. Je pense que ça pourrait marcher de faire une œuvre complètement théorique, c'est-à-dire en disant voilà, j'utilise cet intervalle parce que ça veut dire ça. Mais je crois qu'au final, si on n'a pas l'inspiration qui va avec sur le moment, on y perd beaucoup.
D'accord.
Finalement, alors, les œuvres les plus belles, je crois qu'on se met tous d'accord à chaque fois qu'on me demande si tu devais choisir, c'est bien la question qu'on pose à tous les musiciens, si tu devais vraiment choisir un seul compositeur et partir sur une île déserte jusqu'à la fin de tes jours, lequel prendrais-tu? Alors, c'est hyper difficile comme question, évidemment, puisqu'on aime beaucoup de choses, mais je crois que ça serait quand même Jean-Sébastien Bach.
Et oui, c'est celui qui fait vraiment l'unanimité, celui-là.
L'unanimité. C'est le compositeur universel par excellence. Et oui, c'est vrai que, par exemple, là, j'ai un concert ce soir avec la musique de Bach. Et à chaque fois que je joue une œuvre de Bach, je me dis, mais non, mais c'est celle-là la plus belle.
Oui.
Mais à chaque œuvre, je me dis ça. Donc, le choix est impossible. Impossible.
Et tant mieux.
Typiquement, Bach n'écrivait pas pour l'humain. Bach écrivait pour les cieux.
D'accord.
C'est de la musique divine.
On va passer à la deuxième pause musicale. Anna, vous nous avez pris un morceau qui s'appelle Vere. Est-ce que je le dis bien?
Oui, alors c'est de l'estonien. C'est une ballade, une berceuse estonienne de Marianne Nutt, qui est une violoniste et chanteuse. Ça ressemble, c'est Vere Paukere. Voilà.
D'accord, alors on écoute.
J'ai écouté aussi beaucoup et que je chante à ma fille le soir.
Présence à Figeac 97.7.